Les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beur FM.
Il était comme nous, émigré, vivant dans une vieille cité.
Aujourd'hui, dimanche 3 décembre 2023, les grands témoins font place à la marche pour l'égalité et contre le racisme d'il y a 40 ans. Un grand témoin spécial qui durera 2 heures. Je vous propose de retrouver dans cette émission des animateurs emblématiques de ces années de feu où la France découvrait le vrai visage de sa jeunesse. Face à la haine, aux crimes racistes, aux discriminations, cette jeunesse délivrait un discours de paix, d'amour, de non-violence. Nous retrouverons tout au long de cette émission, aux côtés de votre serviteur, Rachida Azoug, Mehdi Lalaoui, Mahmoud Kaki et Halima Menhouj. Les grands témoins, c'est tout de suite.
La marche pour l'égalité et contre le racisme. 40 ans après, sur Beur FM.
Et c'est tout de suite, évidemment, avec notre premier invité ce matin, qui est présent, évidemment, dans les studios de la radio. Monsieur Nasser Khétan, bonjour.
Oui, bonjour, Kim. Comment ça va?
Eh ben, ça va très bien. On est ravis de vous recevoir dans votre radio. Et on est très heureux ce matin, finalement, de commémorer et de faire perpétrer la mémoire concernant donc cette marche il y a 40 ans déjà. Et cette marche donc pour l'égalité des droits et contre le racisme, c'est aujourd'hui d'actualité avec tout ce que l'on voit en tout cas dans le quotidien des Françaises et des Français avec ce racisme, cet antisémitisme, l'islamophobie qui grandit et aujourd'hui on se pose la question finalement à quoi a servi cette marche. On va y revenir évidemment dans un instant, mais d'abord j'aimerais que vous nous parliez de cette marche et ensuite on va rentrer évidemment dans la suite de l'histoire. Mais comment est-elle née cette marche et pourquoi?
Au cœur de la genèse de la marche pour l'égalité et contre le racisme, qui s'est appelée comme ça qu'un peu plus tard, c'était pas comme ça au début, c'est le rapport police-justice qui demeure. On tuait des jeunes, on tuait des maghrébins, on tuait des gens, des africains, des gens d'Afrique du Nord, déjà depuis les années 70. À Marseille, on avait massacré plusieurs dizaines d'Algériens et c'est ce qui a amené le président Boumédien de l'époque à arrêter l'immigration. Et ça a continué. On tuait du bounioul, on faisait des ratonnades. D'ailleurs, dans l'armée, un des véhicules de l'armée, d'ailleurs, s'appelait le chasse-bounioul, à l'époque. Donc, voilà, c'était ancré dans l'histoire coloniale. Et puis, progressivement, les gens se sont organisés, y compris avant l'arrivée de Mitterrand au pouvoir en 81, qui a permis aux gens d'origine étrangère de créer des associations et de pouvoir s'exprimer dans l'espace public républicain. Déjà un peu avant, Saïd Bouziri, qui est une figure emblématique de l'histoire de l'immigration, qui est à l'origine de Générique, entre autres, et du journal Sans Frontières, et qui a aussi aidé à Radio Soleil Goutte d'Or, déjà c'était illustré par les grèves de la faim pour la régularisation des sans-papiers dans la fin des années 70. Et il avait été soutenu à ce moment-là au relais de Ménilmontant. Le relais de Ménilmontant qui va avoir une histoire phénoménale dans l'histoire de l'immigration, puisqu'il va concentrer chez lui, des radios libres vont émettre de là-bas, des collectifs de l'immigration vont émettre de là-bas. Et tout autour de ça, c'est un petit peu la partie œcuménique chrétienne. C'était des pères, j'en oublie le nom, mais que ce soit à Ménilmontant ou que ce soit à la salle Saint-Bruno, à l'église Saint-Bruno, dans la Goutte d'Or, les prêtres, les curés, ont toujours soutenu les immigrés, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut attendre le pape pour avoir une décision. Et donc, il y avait aussi le journal Sans Frontières. C'était le journal issu de l'immigration, dont j'ai fait partie, et qui a, c'est d'ailleurs le premier numéro, c'était La Seconde Génération Parle, et c'était les coups de poing, Bonnet Stoléru, c'était les ratonnades, c'était les expulsions d'immigrés, puis il y avait Lionel Stoléru qui avait offert le million du retour pour retourner dans le pays d'origine. Et petit à petit, donc, Mitterrand est arrivé au pouvoir, 1981, la possibilité de s'organiser. Donc nous, on avait créé pas mal de radios. Donc notamment, moi, j'avais créé Radio Beur avec un certain nombre de copains. D'ailleurs, les mêmes avec lesquels on avait créé Sans Frontières. Je pense notamment à la troupe La Caïna, Saléha Amara, Youssef Boussaha, entre autres, qui avaient présidé aussi à la création de Sans Frontières avec Farid Aïchoun, Saïd Bouziri et bien d'autres. Et puis, là, ça a commencé. Les rodéos à Vaulx-en-Velin, le rapport police-justice, les ratonnades, le contrôle au faciès, le chasse au faciès. Et là, on m'inguette, un quartier de Vénissieux, pas loin de Lyon, SOS Avenir Minguette s'était créé, et une grève de la faim a été lancée pour dire arrêtez, quoi, arrêtez de nous harceler, de nous tirer comme des lapins. En 83, Toumi Djadja, qui est un fils d'Algérien, qui est originaire des Minguettes, va protéger un gamin qui se fait agresser par un chien policier. Et là, il se prend une balle dans le ventre et il va à l'hôpital. Il va à l'hôpital et puis là, il dit, on en a marre de se faire tirer comme ça. Comment on peut réagir à cette oppression? Eh bien, on va faire une marche comme Gandhi, non violente. Et donc, soutenu par SOS Avenir Minguette, déjà qui s'est illustré dans la grève de la faim, soutenu par la CIMAD, qui est une organisation œcuménique protestante, avec le père Delorme, Christian Delorme, qui va jouer un rôle très important dans la marche, et puis aussi avec le mouvement alternatif non violent, pour une société non violente, qui aussi, c'est trois associations qui prêchent la non-violence. Et ça, c'est très important. C'est ce que je veux dire, c'est que l'arme des jeunes a toujours été la non-violence. La violence des jeunes, d'abord, quand on est jeune, ne pas être violent, c'est un non-sens, parce que ça fait partie de la contestation de l'autorité, etc. Mais il n'y a pas, de façon héréditaire, une espèce de violence qui soit attachée aux jeunes maghrébins. C'est impossible, ça n'existe pas, parce qu'il y a le respect de l'autorité, le respect des parents, etc. Et donc, non-violence, on dit, on va marcher comme Gandhi en Inde, on va faire une marche non-violente, on va dire, on en a marre de se faire tirer comme des lapins. C'était pour protester contre les bavures policières, les crimes racistes, etc. Et donc, il y a cette idée de marche pour la paix, de marche non-violente qui se crée. Et autour de ça, des associations viennent rejoindre un petit peu cette idée. Donc, les associations de solidarité avec les travailleurs immigrés, ce qu'on appelle les ASTI, le CAIF, le Conseil des associations immigrées de France, Radio Beurre à l'époque, Sans Frontières, enfin, tout ça, c'est une mayonnaise qui prend. Et puis, on construit autour de cette marche un mot d'ordre qui va s'appeler la marche pour l'égalité contre le racisme. Parce qu'il faut le conceptualiser et en faire une marche politique. Et donc c'est comme ça que ça démarre. Et la marche démarre le 15 octobre à partir de Marseille, dans le quartier de la Cayolle. Et d'ailleurs, on retrouve ce reportage à l'époque sur Mosaïque. Il y a eu une émission spéciale faite par Toufik Fares, Djelloul, Abdelkader Djelloul et Rachid Mimouni, Mouloud Mimoun, oui. Mouloud Mimouni, qui vient de disparaître. Il est décédé il y a 2-3 jours. C'était un brillant commentateur, un amoureux du cinéma, un des créateurs de la Cinémathèque algérienne aux côtés de Bouj Marakarech. Il vient de partir là, il y a 2-3 jours, et c'est un bel hommage qu'on pourrait lui rendre en diffusant cette émission. Et donc, il fait un reportage en direction de la Cayolle, et la marche démarre. Elle démarre le 15 octobre de Marseille, et elle arrive le 3 décembre à Paris. Elle part de la Bastille, et elle arrive à Montparnasse. Et dès que la marche démarre, moi je suis président de Radio Beurre à l'époque, et qu'est-ce que je fais? Je prends de l'argent dans ma poche et je donne ça à un animateur de la radio et je lui dis, tu vas acheter cet animateur existe toujours puisqu'il est dans une autre radio, et je lui dis, tu vas acheter des fleurs, tu vas acheter des bouquets de fleurs. Et quand la marche démarre le 15, donc on n'est pas loin du 17 octobre, je lui dis, on va jeter des fleurs à la Seine. Donc je lui donne de l'argent, il va acheter les couronnes de fleurs, la marche démarre, et le 17 octobre, on va tous sur les bords de la Seine, et c'est une des premières manifestations de commémoration du 17 octobre 61. Et là, et ça commence, quoi. Là, la mayonnaise commence à prendre, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que en amont, pendant tout l'été, il y a des crimes racistes. Il y a Toufik Ouanès qui se fait assassiner, il a 9 ans, il prend une balle dans la tête dans le quartier de la Courneuve. Il y a Nasser Mraidi qui prend une balle dans la tête. Il y a Abdel Bigemia à Nanterre, dans la cité de Nanterre, qui prend une balle. Il y a Nasser Mraidi, je viens de citer, à Bagneux. Et puis voilà, et je fais une liste. Je fais une liste d'une cinquantaine de bavures et de crimes racistes qui sera publiée après sous la liste Radio Beurre. C'est moi qui l'ai faite, et donc elle est publiée dans le livre coécrit par Françoise Gaspard et Tara Benjelloun qui s'appelle L'été meurtrier. Pourquoi je l'avais appelé L'été meurtrier? Parce que c'est cet été-là où Isabelle Adjani joue dans ce magnifique film qui s'appelle L'été meurtrier. Ouais. Et donc je fais un clin d'œil à ça, mais un clin d'œil macabre, disons, puisque il s'agit de crimes racistes. Et la marche se déroule avec tout son cortège de gens qui la rejoignent. Et puis elle prend une tournure très importante le 15 novembre. Habib Grimzi, un jeune d'origine tunisienne qui est sur le Paris 20 000, se fait défenestrer par deux
j'étais petit, je m'en rappelle.
Et ça suscite un émoi considérable dans ce pays. Et donc là, les choses sont en train de s'amplifier. Et donc, tout le monde rejoint un peu cette marche. Chacun participe à sa façon. Il y a des gens qui marchent pendant 48 heures, d'autres pendant une semaine, etc. Il y a des marcheurs, disons, historiques, et qui feront du début à la fin, comme Christian Delorme, comme Marie-Laure Mahé, comme Toumi Djadja, comme Jamel Attala, comme Farid Lawa, etc., etc. Donc, il y a des marcheurs un peu historiques. Et ils arrivent donc, le 3 décembre, et donc nous on organise un collectif à Paris, un collectif qui se retrouve dans le relais de Ménilmontant. Donc je salue à cet effet Daniel Duchemin, qui a été quelqu'un de central, qui est disparu aussi aujourd'hui. Les gens disparaissent, hein, donc je crois qu'au 50e anniversaire il n'y aura plus grand monde. Et donc Daniel Duchemin qui organise un petit peu le collectif. Et nous, dans le collectif, moi, je voudrais saluer vraiment Mohamed Zaïm, qui était à Radio Beurre. Mohamed, avec sa camionnette, il emmenait les affiches, il collait, il était là. C'était la logistique incroyable, Mohamed Zaïm. On retrouve aussi des gens comme Kamel Amriou, comme Salah Mansouri. Et puis, on se retrouve tous dans la marche. Et donc, on a une espèce de camionnette un peu surélevée. Et puis, on interviewe des gens. D'ailleurs, le chanteur Renaud était avec nous. Il y a une interview, hein, qu'on peut voir aujourd'hui. Et on marche. Et donc, 100 000 personnes sont à l'arrivée. Le pari des marcheurs est réussi. Et Mitterrand leur avait promis de les recevoir, puisque Mitterrand était parti aux Minguettes le 10 août. Et donc, Mitterrand les reçoit. Georgina Dufoy, qui était la ministre de l'époque, fait tout le travail de logistique. Et les marcheurs sortent avec la carte de résidence de 10 ans. Pour moi, c'est minable. Aux yeux de ce que la marche demandait, aux yeux de la volonté d'exister des jeunesses issues de l'immigration, aux yeux du rapport police-justice, aux yeux de la demande d'égalité, d'équité, c'est minable, c'est un minimum. Donc on donne une carte de 10 ans pour les étrangers, quoi. C'est là, on voit tout le mépris de ce que la gauche française, le Parti Socialiste en l'occurrence, comment ils voyaient les jeunes issus de l'immigration. C'est une misère. Et là, c'est une façon de décapiter le mouvement. Et ce mouvement va être décapité de façon définitive par une petite main qui va sortir dans la manif, qui s'appelle « Touche pas à mon pote », et va naître SOS Racisme, qui va laminer le mouvement issu de l'immigration, et qui va être dirigé par des anciens trotskistes comme Julien Drey. Aussi, on retrouve aussi l'Union des étudiants juifs de France. Et on va décapiter ce mouvement. Et il va y avoir des résistances. L'année d'après, Convergence 84, menée par Farida Belghoul, la figure emblématique de ces années-là, va faire une manif, mais elle va pas avoir le même succès. Et puis, SOS Racisme, avec ses concerts, tout ça, va définitivement décapiter le mouvement. On va retrouver des gens qui vont construire les mouvements de lutte que nous menions, vont construire une carrière politique. Harlem Désir, qui va être au Parti Socialiste, qui va être député européen, qui va être ministre. Julien Drey, qu'on connaît, hein, qui récemment s'est illustré en tapant sur les Palestiniens. Donc on retrouve des gens comme Didier François, hein, qui aujourd'hui est un spécialiste soi-disant militaire et qui est tout le temps sur les chaînes de télévision, qui donne des conseils. Et là, c'est une désillusion considérable. 85, il y aura une marche des droits civiques que moi je mènerai pour réclamer les droits civiques, où je mettrai les enfants de harkis et les enfants d'immigrés. Et là, doucement, le mouvement est décapité. Mais il reste cet espoir de la jeunesse, il reste cette volonté de militer, et ça va se transformer par une radicalisation dans les années 90, dans les quartiers, avec l'adhésion à un islam politique, manipulés par des imams autoproclamés ou qui importés. Et là, on aura un face-à-face entre la République et l'islamisme. Et ça, c'est une autre histoire.
Les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM. Les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
La marche pour l'égalité et contre le racisme. 40 ans après. Sur Beurre FM.
Et on poursuit sur Beurre FM justement avec notre invité ce matin, Nasser Khétan. Donc on parle de cette commémoration, 40 ans déjà. On parlait tout à l'heure de l'actualité. D'ailleurs, on a reçu tout à l'heure dans le Grand Rahoua un grand avocat qui parlait de racisme, d'antisémitisme, etc., etc.
Oui, Harry est un ami.
Exactement.
Moi, je le salue parce qu'il mène un combat vraiment important et estimable, quoi. C'est vraiment quelqu'un de bien.
Et justement, moi, ce qui me perturbe un peu, on va dire, ces derniers temps, et j'y pense beaucoup, parce qu'on a tous, certains d'entre nous ont des enfants, adolescents, qui sont nés ici, qui ont grandi ici. L'idée d'être un Français à part entière, même si on est fier aussi de nos origines et que elles sont en nous de toute façon et que on ne les reniera jamais, c'est une force. L'idée d'être un Français à part entière, très sincèrement, Nasser, on paye nos impôts, on a grandi ici, on a été scolarisé ici, et à mon âge, j'ai l'impression que finalement rien n'a changé. Est-ce qu'il y a eu de véritables acquis? Parce que on parle de Beurre FM aujourd'hui, bon, on a parlé de l'histoire de Radio Beurre, donc Beurre FM est la continuité de cette histoire. Très sincèrement, je le dis pas parce que je travaille sur Beurre FM, mais quel espace de dialogue ou en tout cas, quelles opportunités sont offertes à des gens qui ont une origine maghrébine aujourd'hui en France pour défendre leur cause? Parce qu'il y en a pas. On regarde les médias, on nous crache dessus H24. Je vais pas nommer les médias, mais les gens l'auront compris. Les chaînes d'infos continuent, des radios qui appartiennent à des grands groupes, etc. Et on crache du racisme de manière un peu dissimulée. Mais moi, je le perçois et je le ressens comme ça. Donc, de moins en moins, je vous le dis, j'ai fait le service national en France. Je fais partie de la dernière génération, en 96, quand je suis arrivé à Beurre FM. Et je me disais qu'en faisant le service national, je serais plus accepté par mes compatriotes français. Au final, j'ai peut-être perdu 10 mois pour rien parce que rien n'a changé.
Oui, la France a un gros problème avec la colonisation et la décolonisation. C'est ancré dans l'histoire de ce pays et elle a du mal à se débarrasser de ça. Les chasses aux faciès des années 80, les années 70, les ratonnades, sont remplacées par un mot un peu poli qui s'appelle le refus d'obtempérer, qui s'appelle la légitime défense. Derrière le refus d'obtempérer de la police, on met tout et n'importe quoi. C'est l'auberge espagnole. Vous mettez vos doigts dans le nez, quand vous êtes contrôlé, vous avez le gars, il n'a pas à valider le refus d'obtempérer. Et là, c'est la porte ouverte à tous les abus. On l'a vu avec Naël, hein, donc c'est dramatique. Donc là, les choses continuent. Les choses continuent. Le rapport police-justice, il continue. Je veux dire, cette espèce de discrimination, d'assignation à résidence, de relégation, comme on l'appelle, continue. Donc c'est très compliqué. Et vous avez des chaînes poubelles qui parlent de français de papier. Ce sont vraiment des chaînes poubelles. C'est-à-dire que ils attisent le feu. Ce sont des chaînes qui à longueur dans antennes animent la xénophobie et donc ils vont dans un sens ils animent la tribalité, et alors que nous sommes des enfants de la République, on est dans la cohésion sociale, on est dans la démocratie locale, on est dans le roman national. Pour nous, la République, c'est qui? C'est Clémenceau, c'est Stéphane Hessel, c'est Issac Manoukian, c'est Frantz Fanon, c'est Gisèle Halimi, c'est Simone Veil, C'est ça nos héros et nos héroïnes. On est dans la République et ça leur fait mal. Ils n'acceptent pas. Déjà dans les années 70-80, on pensait que l'émergence politique de ce qu'ils appellent les beurs était un danger pour la stabilité. C'est une cinquième colonne. C'est fréquent. Déjà en 83, le Front National prend la municipalité de Dreux. Le Front National commence à prendre des municipalités. Et depuis ce jour-là, on a Marine Le Pen qui a le vent en poupe, et on voit la désaffection de toutes les grandes organisations de solidarité, chrétiennes, politiques, etc., jusqu'à Emmanuel Macron qui est élu et qui dit que ça sert à rien les syndicats, ça sert à rien les partis politiques, les sociétés civiles, etc. Et ils récoltent un petit peu ce qu'ils ont semé. Et donc, effectivement, pas grand-chose a changé. Or, moi, ce que je voudrais dire, c'est que la France est notre pays. Nous sommes des républicains, nous sommes ici chez nous, et il va falloir mettre beaucoup d'énergie pour contredire ou nous déloger. Donc, effectivement, pour des raisons commerciales, pour des raisons obscènes et malodorantes, un certain nombre de chaînes animent des thèses, des thématiques qui sont un déshonneur pour la République. On le voit ces temps-ci, hein. Il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Et donc c'est tout ça qu'il faut déconstruire. Mais il y a une réponse. Il y a des gens qui se lèvent et qui disent non. Et donc je pense que la loi qui est en train d'être préparée sur l'immigration, elle n'ira pas très loin. Elle n'ira pas très loin parce que quand vous allez dans la RPI française, je veux dire, c'est pas que la région parisienne, la France, hein, les Français ne sont pas racistes. Les Français aiment leurs prochains. On l'a vu sur l'accueil des réfugiés en Méditerranée, dans le sud de la France. On le voit dans le nord, dans les mines. On le voit. Les Français ne sont pas racistes. Il y a des minorités agissantes autour du Front National, autour de l'extrême droite, comme on le voit récemment là, avec les menées expéditives. Et donc, je pense que moi, je suis assez serein. Je suis assez serein parce que la France est un pays de droit. Il ne faut pas oublier que c'est là où est née la dégradation des droits de l'homme. Il y a un îlot de démocratie au bout du monde. Il y a la laïcité qui forge un certain nombre de relations apaisées et fraternelles entre les gens. Et je pense que c'est comme ça. Donc la démocratie, c'est une lutte permanente. Et la fraternité, elle est toujours à la clé. Donc, et nous, on est porteurs de cette fraternité. Une fraternité beaucoup transnational. Donc c'est aussi ça l'enseignement de la marche. On restera toujours non violent. On n'appellera jamais à la violence.
Merci beaucoup Nasser. Le temps qui nous était imparti se conclut. Dans quelques instants, on va juste évidemment faire un point sur l'actualité. Sinon, je vais me faire gronder, Nasser. Donc
je voudrais un mot simplement rendre hommage à Khaled Mella qui nous a quittés, qui était très important à la fois dans Radio Beurre, dans Beurre FM et dans la marche. À Mouloud Chala, qui a été très important aussi dans Radio Beurre, qui était syndicaliste chez Chausson, puisque les immigrés de Talbot-Poissy, de Chausson, nous avaient rejoints dans nos luttes radio et marche, et aussi à Saïd Bouziri, à Farid Aishoun, qui était un élément moteur de l'histoire de l'immigration, Saleha Amara, avec la troupe La Kaina, l'association de la nouvelle génération, Rachida Azoug, Farida Belgoul, Toumi Djadja, aussi à Sabrina, qui était chez nous, qui faisait le cœur à ses raisons. Ouais. Fatéha, vol de Fatéha,
parloir 107,
qui animait l'émission aussi en direction des prisons. À Karim, vol de nuit aussi, qui a disparu. Je voudrais rendre hommage à tous ces gens. Je peux pas tous les citer, mais il y a toute une génération de bâtisseurs. Nos grands-parents, nos parents avaient bâti ce pays sur le plan matériel, les autoroutes, les immeubles, les gares, etc. Et nous, on a bâti aussi ce pays d'un point de vue moral. On a avancé des idées, des thèses auxquelles nous croyons, on y croit toujours. Et voilà. Et donc, je voudrais rendre hommage à tous ces gens qui ont vraiment donné leur temps, leur vie, pour des idées auxquelles ils croyaient.
La marche pour l'égalité et contre le racisme.
Il était comme nous.
40 ans après, sur Beurre FM. Les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM. La marche pour l'égalité et contre le racisme.
Il était comme nous.
40 ans après, sur Beurre FM.
Comme promis, nous allons accueillir notre invité, Monsieur Mehdi Lalaoui, avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue. Vous êtes président donc au nom de la mémoire et Beurre FM toute cette semaine et eh bien célèbre les 40 ans de la marche pour l'égalité contre le racisme ou dit ou la marche dite des Beurre qui a eu lieu donc 40 ans il y a 40 ans déjà et nous avons reçu hier Nasser Kétan qui a évoqué justement ce rendez-vous donc de cette jeunesse qui a contesté évidemment la discrimination et on s'est remémoré malheureusement les drames d'antan de l'époque. Aujourd'hui, eh bien, on y revient avec vous. La marche 40 ans après, quelle est la signification de cette marche pour vous aujourd'hui ?
Ben, 40 ans après, c'est le constat. Hein. On a marché en 83 pour dénoncer les inégalités, les discriminations, les crimes sécuritaires et le racisme. Il y a 40 ans, il n'y avait aucun député du Front National à l'Assemblée nationale. Et 40 ans plus tard, les discriminations, les crimes sécuritaires et racistes n'ont jamais été aussi importants. Et on a 88 députés du Front National à l'Assemblée nationale. Donc il y a une régression énorme par rapport à ce qu'on a vécu il y a 40 ans en termes de droits. Et la nécessité aujourd'hui, 40 ans plus tard, c'est de continuer à marcher, de toujours marcher pour réclamer la justice, pour réclamer l'égalité, pour réclamer une société plus fraternelle.
Justement, cette marche, évidemment, de 83 a vu bon nombre d'associations actives, notamment sur le terrain, qui ont lutté contre le racisme et pour l'égalité des droits. On a vu en particulier l'émergence de SOS Racisme, qui avait été, on va dire, initiée par la gauche. Aujourd'hui, on a le sentiment que peut-être ce mouvement a été finalement récupéré, que tout ça s'est un peu dissous et on a perdu un peu de vigueur, de force justement dans cette lutte pour les droits, pour l'égalité.
Non, et ce racisme, ils arrivent plus tard. Hein.
Oui, ils arrivent plus tard, mais ils ont un peu absorbé, on va dire, votre marche et le mouvement qui avait été initié, qui était somme toute populaire, on va le dire ainsi.
Oui, bien sûr. Mais bon, ceux qui combattent pour les droits et contre le racisme, on n'a pas le monopole, je veux dire. Ensuite, il y a des appareils et des méthodes qui font que dans tout mouvement aussi important que fut celui de la marche, il y a toujours des récupérations. Mais là n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que cette marche contre le racisme et pour l'égalité des droits il y a 40 ans a été quelque chose de fédérateur. Ça a été un déclencheur aussi de l'implication de toute une jeunesse dans le mouvement associatif. Et en réalité, cette marche a continué. Hein, parce qu'en 84, il y a une marche. En 85, il y a une marche. Et il y a eu des mobilisations ces 40 dernières années. Hein, les choses ne s'arrêtent pas au début des années 80. Il y a eu toute une série de mobilisations contre le racisme et pour l'égalité des droits ces 40 dernières années à travers les lois Valls, les lois Cazeneuve, les lois Sarkozy, les lois Pasqua-Pandro, les lois Debré, qui étaient des lois qui remettaient en cause le droit de vivre des immigrés, de leurs descendants de nationalité française, donc nous-mêmes, et qui restreignaient le droit d'asile. Donc il y a eu ces marches au début des années 80 qui ont été fédératrices et puissantes, mais chacun n'est pas rentré chez soi après, parce que depuis 40 ans, il y a eu de nombreuses mobilisations. Et 40 ans plus tard, on fait partie d'un collectif qui se mobilise aussi sur cette nouvelle loi qu'on appelle la loi Darmanin et qui est pire que les lois Pasqua-Pandro des années 90.
Et justement, c'est pour ça que je voulais y revenir. Je rappelle que nous sommes évidemment avec Monsieur Mehdi Lalaoui, qui est président au nom de la mémoire. Évidemment, vous êtes vous auditeur peut-être en train de nous rejoindre et en cours d'émission, et on vous souhaite la bienvenue. Parlons de cette loi immigration, parce que quand je vous disais tout à l'heure que finalement il y a eu un peu de récupération, peut-être que votre mouvement qui a été un mouvement très fort, qui a on va dire emmené beaucoup de jeunes sur cette marche. C'est des centaines de milliers de personnes qui sont mobilisées. Certes, les associations restent actives aujourd'hui. Heureusement que vous êtes présents sur le terrain, mais pour autant, on est aujourd'hui le 28 novembre 2023. On ne peut pas occulter ce qui s'est passé ces dernières heures avec les ratonnades, que ça soit à Romans-sur-Isère, les mouvements de l'ultra-droite à Lyon, à Rennes, à Dijon, dans d'autres villes. On a le sentiment finalement que est-ce que ça a tellement évolué? Est-ce que la situation des jeunes français, je dis bien français, issus d'immigration, est-ce que leur situation a évolué?
Alors, moi, je regrouperai tout le monde. Je regrouperai la génération de nos parents qui ne sont pas français, avec nous qui sommes français. Je regrouperai les exilés parce que c'est une attaque qui touche tous ceux qui sont étrangers ou d'origine. Voilà, ça touche pas seulement les jeunes français issus de l'immigration coloniale. Ça touche l'autre, quoi, le BPEC, comme on disait dans les années 30. Et c'est une attaque qui est sans précédent. Vous faites référence à ce qui se passe ces derniers jours où il y a ces tentatives de ratonnade. On a vu ça dans les années 70, mais on pensait que c'était ces mouvements physiques pour s'opposer, qui débarquent dans les quartiers populaires pour s'attaquer aux populations et pas seulement aux jeunes. On pensait que c'était passé. Mais une résurgence très très inquiétante qui fait penser aux années 30, à la montée du fascisme. Voilà, l'expression depuis des années, l'expression raciste, c'est diffusé dans toute la société. Non, on vit dans une séquence en ce mois de novembre 2023 très 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 inquiétante et régressive par rapport au droit, par rapport à l'égalité, par rapport au vivre ensemble. Hein. 83, c'était une promesse de fraternité, une promesse de vivre ensemble avec tout le monde, voilà. C'est pour ça que je ne veux pas séquencer nous qui sommes des Français, avec nos parents qui sont restés avec leur nationalité, et avec ceux qui fuient les persécutions et misères, la guerre, qui sont les réfugiés, et qu'on bloque aussi à travers des dispositifs qui sont présentés en commission aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, à l'Assemblée nationale.
On arrive évidemment presque au terme de cet échange que nous avons aujourd'hui ensemble, Monsieur Mehdi Lalaoui, donc président au nom de la mémoire. Est-ce que vous avez espoir, on va dire, face à la situation actuelle? Le Front National est aux portes du pouvoir, on va pas se le cacher, hein, Madame Le Pen est favorite, même au premier tour, dans les estimations, les sondages qui sont proposés régulièrement aux Françaises et aux Français. C'est quoi votre sentiment actuel? C'est une peur? C'est une inquiétude?
Non, comme disait, je n'aime pas peur. Non, moi j'ai espoir que les gens se réveillent. J'espère que les gens se réveillent, qu'ils ne se laissent pas embobiner par les discours extrêmes de la droite et de l'extrême droite, et de la Macronie aussi, hein, parce que la loi, c'est la loi de Macron, d'Armanin, c'est la loi du président Macron. Hein. J'espère que les gens vont se réveiller, parce que dans ces lois, qu'est-ce qui va améliorer la condition des Français? Voilà. Rien. Ce sont des lois qui feront à courte échelle au Front National. Moi, je continue à les appeler le Front National. Ce sont des lois qui font la courte échelle au Front National. Ce sont des lois à vocation électoraliste pour faire un plus fort que l'extrême droite. Aucune de ces dispositions qui sont proposées à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale en commission va améliorer, régler, éclairer le sort de nos concitoyens, des Français. C'est vraiment des lois répressives et régressives, mais j'ai espoir que les gens se réveillent. Les gens se réveillent en disant faut arrêter avec les surenchères qui n'améliorent pas la vie des citoyens de notre pays et qui risquent de nous amener une nuit certaine comme on commence à voir dans un certain nombre de pays voisins.
Merci beaucoup, monsieur Mahdi Lalaoui, donc, d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes président.
La note d'espoir.
Au nom de la paix, voilà. C'est la note d'espoir qui conclut cet échange. Si on veut en savoir plus sur votre association, structure, est-ce qu'il y a des réseaux sociaux que vous pouvez proposer à l'antenne
de
Beurre FM?
Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a un site qui s'appelle l'intercollectif Égalité des droits, justice pour tous, dont nous participons à l'animation au nom de la mémoire. Il y a ce site, il est ouvert, il y a toutes les informations sur la marche pour l'égalité.
Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à nos questions et on vous souhaite une belle journée à l'écoute de Beurre FM.
La marche pour l'égalité et contre le racisme,
il était comme nous,
40 ans après, sur Beurre FM. Les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM. La marche pour l'égalité et contre le racisme.
Il était comme nous,
40 ans après. Sur Beurre FM.
Et sur Beurre FM, comme tous les matins, vous le savez, Beurre FM s'inscrit donc dans cette mémoire et notamment on revient sur ces 40 ans donc maintenant de cette marche pour l'égalité des droits et contre le racisme. Ce matin, bien invité que nous recevons, c'est monsieur Ahmed Kaki donc qui est avec nous. Bonjour monsieur Kaki.
Bonjour.
Bienvenue à vous sur Beurre FM. Vous êtes entre autres évidemment une personne connue dans le milieu du théâtre avec cette pièce par exemple 17 octobre, Les Oranges, je me souviens. Et aujourd'hui, vous êtes aussi là pour nous parler justement de cette mémoire, de cette marche. Que signifiait pour vous à l'époque et aujourd'hui d'ailleurs cette marche?
C'était la marche du vivre ensemble, la marche de la paix. C'était la marche contre les crimes racistes que nous vivions quand nous avions 20 ans dans les années 80. C'était vraiment un beau projet magnifique qui a rassemblé 100 000 personnes à l'arrivée le 3 décembre 1983 à Paris.
Justement, il y a un rapport avec cette pièce de théâtre du 17 octobre, puisque cette année-là, pour la première fois, eh bien, si je puis m'exprimer ainsi, on célébrait la mémoire de ce 17 octobre 61 et ces massacres d'Algériens qui ont été tués par la police sous ordre du préfet Papon de l'époque, préfet de police donc de Paris. Et vous aviez décidé de commémorer cette date. On en a parlé avec Nasser Khétan et notamment en jetant des fleurs donc à la Seine.
Oui, je vous remercie, monsieur, pour ce rappel historique émouvant. En effet, à l'époque, c'était une des premières fois que nous travaillons sur la mémoire collective de combat de nos parents qui ont été assassinés ce 17 octobre 1961 et les jours suivants pour avoir organisé une manifestation pacifique contre le couvre-feu discriminatoire du sinistre préfet Maurice Papon le 5 octobre 1961. 40 000 personnes étaient parties de toute la banlieue de Paris pour organiser une manifestation pacifique. Et ce sinistre préfet Maurice Papon, avec évidemment la validation de ses supérieurs hiérarchiques ministériels, avait ordonné aux forces de l'ordre en ces termes « Nettoyez-moi ça ». Et ils se sont pas privés, les forces de police à l'époque, puisqu'ils ont assassiné nos parents. Plus de 300 de nos parents ont été assassinés, sans compter les milliers de blessés graves et les disparus. Et puis ce qu'on appelait à l'époque les expulsés vers les douars d'origine, qui en réalité ont été remis à l'armée française dans les camps de regroupement en Algérie par le vote de 1956 des pouvoirs spéciaux, par la droite et la gauche d'ailleurs en 1956, qui était une honte. Et donc cette mémoire-là, nous, nous souhaitions qu'elle existe parce que c'est une mémoire de combat. Nos parents ne sont pas morts pour rien, ils sont morts la tête haute parce qu'ils voulaient la justice, l'égalité et l'indépendance de l'Algérie.
On va aussi évidemment forcément bien revenir sur un personnage qui a été un ami de la radio, qui a marqué évidemment l'histoire aussi de Beurre FM, paix à son âme, c'est monsieur Mouloud Aounit qui était aussi au MRAP. Que pouvez-vous en dire justement si on devait se remémorer ce grand personnage?
Décidément, monsieur, vous avez envie de me faire pleurer aujourd'hui parce que ce personnage, Mouloud Aounit, était un ami personnel, un ami de combat, un frère. Et pour nous, Mouloud Aounit, c'est un lion. Un lion qui infatigable, qui était de tous les combats. Mouloud Aounit était le président du MRAP et il a fait de nombreux combats. Il a été injustement attaqué d'ailleurs par la droite et la gauche à l'époque parce que eh bien Mouloud Aounit défendait la Palestine, Mouloud Aounit défendait se battait contre l'islamophobie et donc Mouloud Aounit était de tous les combats pour notamment la reconnaissance des crimes coloniaux du 17 octobre 1961 et bien évidemment il était avec nous pour la marche pour l'égalité des droits et contre le racisme. C'était un des premiers personnages qui a été oublié et que je vous remercie, je remercie votre radio de nous remémorer la mémoire de ce combattant, de ce lion des combats de l'époque et qui n'a jamais cessé jusqu'au dernier jour de son souffle à se battre. Et il était comme nous pour une mémoire de combat.
Il y a un rendez-vous à ne pas manquer, c'est ce 2 décembre, avec un colloque. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, justement?
Alors, le colloque de ce samedi, le 2 décembre 2023, organisé par l'association Les Oranges avec de nombreux partenaires, dont Beurre FM, c'est un colloque important puisque le 40e anniversaire de la marche pour l'égalité des droits et contre le racisme. C'est un colloque national, un colloque important qui rassemble des gens, des initiateurs de la marche, de cette marche-là, ceux qui ont organisé réellement, c'est-à-dire le père Christian Delorme et Jamel Atala. Il y aura également Marie-Laure Mahé, qui est une marcheuse historique. Et puis, il y aura aussi des chercheurs en sciences sociales, comme Olivier Le Congrès-Maison, comme Vincent Gesser. Il y aura aussi Arié Halimi, le brillant avocat. Mais il y aura aussi des témoins qui ont perdu un être cher de leur famille, c'est-à-dire Amel Bentounsi et Assetou Cissé. Donc, nous allons parler à la fois des crimes d'hier, mais aussi des crimes d'aujourd'hui, dans le cadre de ce 40e anniversaire à la salle des congrès de Nanterre. C'est un moment important pour la transmission. Il s'agit, l'enjeu numéro un pour nous, c'est la transmission de cette histoire, de dire que nous n'avons pas fait des choses pour rien, que nous n'avons pas croisé les bras, que nous n'étions pas les deux pieds dans le même pot, et bien que vraiment qu'il y a eu des actions. Et c'est important que cette marche pour l'égalité des droits et contre le racisme est un marqueur historique. Et donc Nanterre, pourquoi Nanterre? Nanterre, c'est une ville historique des combats, de la mémoire, mais aussi de l'histoire algérienne, puisque c'est là-bas qu'il y a eu la création du PPA, le Parti du Peuple Algérien de Messali Hadj. C'est là-bas qu'il y a eu aussi des assassinats dans les années 80 avec Abdeni Gemia, mais c'est aussi récemment, malheureusement, l'assassinat de Naël, le jeune Naël, qui a été assassiné à bout portant. Cela veut dire que ces phénomènes de reproduction raciste, ces phénomènes de crimes racistes, eh bien, ils sont toujours à l'œuvre et que nous devons continuer à nous battre. Mais c'est aussi un colloque sera festif, puisqu'il faut garder la joie dans les cœurs. C'est important de garder la joie dans les cœurs, comme avec Mouloud Aounit à l'époque. Il faut savoir rire du drame, et donc c'est pour ça que je joue cette pièce de théâtre aussi devant des lycéens, devant des étudiants, etc., parce que c'est important de garder l'énergie, et ils n'auront pas notre l'aigreur, on restera toujours en forme, et donc nous, notre slogan, vous le connaissez probablement, c'est s'unir collectivement pour ne pas subir individuellement. Exister, c'est résister, garder toujours cette énergie, et c'est pour ça que ce colloque est important.
Merci beaucoup à vous, monsieur donc Kaki, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir en quelque sorte ravivé la mémoire de celles et ceux qui nous écoutent ce matin. On vous souhaite une belle journée.
Les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM. La marche pour l'égalité et contre le racisme. 40 ans après,
sur Beurre FM.
Et ce soir, c'est monsieur Mohamed Kaki qui est de retour sur Beurre FM et que on a le plaisir d'avoir avec nous. Alors, monsieur Kaki, normalement, c'était Adil Farkan qui devait vous recevoir, mais bon, on s'est parlé ce matin, on se reparle ce soir. C'est pas grave.
Avec plaisir, avec plaisir.
Yatek Saha, merci beaucoup en tout cas d'être avec nous. Vous êtes évidemment dans le domaine du théâtre en particulier. D'ailleurs, vous aurez l'occasion, on va en parler tout de suite, hein, ce 2 décembre, lors d'un colloque, eh bien, de monter sur scène pour eh bien, cette pièce de théâtre qui a tourné un peu partout, qui s'intitule le 17 octobre. Et on est ravis à nouveau de vous avoir avec nous ce soir.
Merci.
Alors, on va revenir évidemment sur cette marche donc des 40 ans donc pour l'égalité des droits et contre le racisme. Justement, ce matin, c'est un sujet qu'on n'avait pas forcément abordé, mais on voit l'actualité du moment avec en particulier ces ratonnades dans différentes villes. On en a vu à Romans-sur-Isère, il y a eu des manifestations de l'ultra-droite à Lyon, à Rennes et dans d'autres villes comme Dijon. Est-ce que vous avez le sentiment, 40 ans après, que finalement, ce qui se passait à l'époque, eh bien, est définitivement, on va dire, enterré? Ou alors, est-ce que vous avez peur de l'avenir et du quotidien et cette résurgence, en fait, de ces agressions racistes?
Alors oui, je suis, comme beaucoup de Français, très inquiet de ce qui arrive et de la montée de ce racisme violent qui aujourd'hui passe à l'acte. Alors vous avez raison de rappeler la question de la marche. Finalement, c'est pas le même contexte parce que vous savez, il y a 40 ans, il n'y avait pas un seul élu d'extrême droite à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il y en a près de 90. Donc c'est effectivement un contexte nouveau qui petit à petit, il y a une déliquescence, si vous voulez, de la société. Mais la marche pour l'égalité des droits et contre le racisme à laquelle nous avions participé il y a 40 ans reste un marqueur contemporain de notre capacité collective à l'époque à dire non à la haine, non au racisme, oui à l'égalité, oui à la justice, et elle restera toujours un marqueur important et de transmission pour les jeunes générations d'aujourd'hui. Alors, effectivement, l'idée de ce colloque que nous organisons à Nanterre, ville historique, justement, où la marche était passée, ville historique de la création du PPA, du Parti du Peuple Algérien, de Messali Hadj, en 1937, ville historique où nous avons, depuis plus de 25 ans, avec l'association Les Oranges, travaillé à ce qu'il y ait une rue et un groupe scolaire Abdelmalek Sayad, du nom d'un grand sociologue algérien qui a travaillé avec Pierre Bourdieu. Tout ça pour dire que en 40 ans, nous avons beaucoup travaillé, nous avons fait avancer des choses en même temps. Et évidemment, et vous avez raison de le souligner, il y a aussi des régressions, des retours en arrière, un racisme décomplexé, une situation de violence invraisemblable avec ces ratonnades, mais aussi avec des attaques contre des mosquées, contre tout ce qui est de ce qu'on appellerait musulmans, arabes, noirs. Donc là, oui, c'est vraiment inquiétant. Et justement, raison de plus pour donner de l'espoir, pour donner de la perspective, pour nous rassembler, pour être ensemble. Et c'est un peu le sens de notre rencontre, de ce colloque populaire que l'association Les Oranges organise à la salle des congrès ce samedi 2 décembre à 13h30. Vraiment, c'est un moment chaleureux et important, mais aussi de transmission, parce qu'il y aura le père Christian Delorme et Jamel Atala, qui sont les vrais initiateurs de cette marche pour l'égalité des droits il y a 40 ans. Il y aura Marie-Laure Mahé, qui est une marcheuse aussi. Mais il y aura aussi beaucoup de jeunes gens d'aujourd'hui, comme Ariem Halimi, l'avocat. Il y aura aussi des témoins importants comme Assetou Cissé, qui a perdu son frère il n'y a pas très longtemps, au mois de décembre 2022, par un nostalgique de l'Algérie française, hein, à Charleville-Mézières. C'était invraisemblable. Et d'ailleurs, il a été relâché, comme l'assassin de Naël, qui a été relâché aussi. Et donc, c'est pour ça que Nanterre, vraiment, ce sera ce colloque national, je le rappelle, puisqu'il y a des gens d'une dimension nationale qui ont initié cette marche, sera important. pour la transmission, pour aussi une mémoire de combat et pour dire on ne se laissera pas faire. Je veux dire que même s'il y a un retour aujourd'hui très inquiétant, etc., c'est le moment de bouger ensemble, c'est le moment de dire notre fraternité, notre justice, notre idée d'égalité. Et je crois qu'ils ne sont pas périmés, ces idées-là, au contraire, même si le contexte, et vous avez raison de le souligner, est d'une violence inouïe, est extrêmement difficile, et raison de plus pour se battre, parce que nous, dans l'association Les Oranges, on dit souvent cette phrase merveilleuse que j'aime beaucoup, s'unir collectivement pour ne pas subir individuellement. Exister, c'est résister, et c'est vraiment le sens de notre combat, hein, vraiment. Et donc, ce n'est pas seulement à l'occasion de ces 40 ans, c'est aussi toute l'année qu'il faut travailler. Et vous avez parlé tout à l'heure, et je vous en remercie, cher Kim, de cette pièce de théâtre que j'ai écrite, qui s'appelle 17 octobre 1961, je me souviens, que je joue partout, d'ailleurs dans toute la France, y compris là récemment, j'ai été invité à Bakou en Azerbaïdjan, donc vous voyez l'ampleur internationale maintenant que ça prend, alors que c'était un projet à l'époque modeste d'un quartier populaire, où on travaillait sur les histoires de vie, etc., dans la grande histoire du 17 octobre 1961. Et aujourd'hui, je suis très heureux parce qu'on est invité un peu partout, à Marseille, à Lyon, à Saint-Étienne, à Charleville-Mézières, à Reims, à Nancy bientôt. Et donc, évidemment, la région parisienne, on a joué dans beaucoup d'endroits. Et donc, y compris avec les lycéens, pas plus tard que demain, je jouerai dans un lycée. Et ça, vous voyez, la dimension de la transmission...
C'est important.
C'est ce qu'il y a de central, et surtout, donner de l'espoir, parce qu'il ne faut pas se laisser faire. Aujourd'hui, à quoi sert un colloque comme celui-ci ? Eh bien, il sert justement, pour reprendre la fameuse phrase de mon maître, qui s'appelle Robert Castel, professeur de sociologie, qui disait « éclairer le présent par le passé ».
Merci en tout cas pour votre intervention et on rappelle donc ce rendez-vous donc du 2 décembre. Rappelez-nous donc l'endroit précisément que les gens puissent venir. Et puis y a-t-il des réseaux sociaux qui permettent de suivre un peu cette actualité ?
Absolument. Alors d'abord, on peut nous retrouver dans un réseau social de Facebook qui s'appelle, notre groupe s'appelle Les Oranges, hein, donc voilà, c'est ça, on peut le retrouver, et il est facile à retrouver puisque notre slogan, c'est le slogan de la fameuse phrase d'Abdelmalek Sayad, exister, c'est exister politiquement, donc il est facile à retrouver. Et puis, c'est ce samedi 2 décembre 2023, à 13h30, à la salle des congrès de Nanterre, juste en dessous de l'hôtel de ville de Nanterre, la mairie de Nanterre, donc c'est simple à trouver, et donc il y aura, ce sera un moment, un colloque bien sûr de transmission, mais aussi un moment festif, puisqu'il y aura des groupes de musique, il y aura, on fera aussi la fête, parce qu'il faut garder la joie dans les cœurs, et aussi consolider la fraternité entre nous par le festif, parce que c'est important.
C'est important, exactement. Merci beaucoup de votre intervention ce soir, et on vous dit à très très vite.
Merci, à très vite.
Oui, à très vite, bientôt. Merci à vous.
Les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM. La marche pour l'égalité et contre le racisme.
Il était comme nous, émigré.
40 ans après, sur Beurre FM.
Bonjour Rachida Azoug.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous savez, c'est toute la semaine des 40 ans pour l'égalité et notamment, vous savez, contre le racisme. Je suis content parce que Beurre FM est à la fois inscrit dans ce rendez-vous pour en parler. Beurre FM aussi répond à ces 40 ans parce que elle les a vécues aussi. Et vous êtes là pour nous en parler parce que vous faites partie de ces marcheurs, comme beaucoup d'ailleurs. Eh bien, vous allez d'abord ma première question, Rachida Azoug. Comment vous vivez, vous savez quoi, parce que vous animez, vous, un collectif qui a préparé justement cette marche à Paris, avec l'arrivée à Paris. Comment vous vivez aujourd'hui, 40 ans après comment vous-même vous sentez les choses?
Merci de m'inviter. Ce que je pourrais dire, c'est que 40 ans après la marche pour l'égalité contre le racisme, nous sommes plusieurs à avoir... décidé d'organiser une coordination nationale qui va célébrer l'événement. Comment je les vis ? Je les vis avec tristesse aussi, parce qu'en lien vous le savez, la marche pour l'égalité contre le racisme se resitue dans un contexte de crimes racistes et de violences policières. À l'époque, on parlait beaucoup plus de crimes sécuritaires commis par, entre guillemets, ce qu'on appelait des beaufs. Mais l'actualité nous a rattrapés avec la libération de l'assassin présumé du meurtre de Naël. Donc, ça pose question, tant en termes d'avancée qu'en termes de justice et d'égalité de traitement pour les gens issus de l'immigration, les gens des quartiers populaires et pour ceux qui ont marché en 83.
Justement, parlons-en. On célèbre les 40 ans, 40e anniversaire. Est-ce que ça revêt, qu'est-ce que ça revêt comme, pour vous, quelle signification vous lui donnez particulière, justement, concernant ce 40e anniversaire de la marche pour l'égalité et contre le racisme? Même alors, si vous l'avez laissé entendre.
Cette célébration, elle a pour objet aussi de poursuivre le combat. De remettre dans l'espace public les thématiques, les sujets qui concernent la France de la diversité, la France des quartiers populaires et il y a nécessité de remettre ça dans l'espace public si on veut un jour faire partie du roman national.
Vous parliez tout à l'heure, ma chère Rachida Azoug, parce que vous avez fait partie de ce collectif qui a préparé l'arrivée de la marche à Paris. Je vous pose la question parce que vous avez fait référence à Naël, ce jeune Naël qui est mort dans les conditions qu'on connaît, puisqu'on l'a couvert sur l'antenne. Vous vous êtes investi notamment auprès des jeunes, justement, parce que vous en avez parlé. Particulièrement dans le rapport, vous savez quoi, police, jeunes. Qu'est-ce qui a changé pour vous, Rachida Azoug?
Rien du tout.
Rien. Pourquoi?
La situation, à l'époque, on parlait, je vous dis, il y avait beaucoup plus, donc c'est pour ça que moi je dis que c'est du racisme systémique. À l'époque, en 83, on a eu toute une série de crimes racistes, de meurtres violents, qui ont été aussi l'objet, y compris chez les initiateurs de la marche aux Minguettes, hein, puisque tout le monde déjà s'est fait tirer dessus, hein, celui qui a été un des initiateurs de la marche. Président des SOS Avenir Minguette, mais on a eu Toufi Kouanès, qui avait 8 ans, qui a été tué par un voisin que le bruit des enfants dérangeait, et celui à qui on peut rendre hommage, qui est pour moi un des marcheurs, parce que la marche appartient à tout le monde, c'est Habib Grimzi, ce touriste algérien défenestré dans le train. C'est quand même...
Vous considérez aujourd'hui comme beaucoup, vous savez, beaucoup le pensent, hein, d'ailleurs. Souvent, régulièrement, on emploie un mot, c'est le deux poids deux mesures. Est-ce que vous le pensez, vous aussi?
Également, bien
également.
Sûr. Également, puisque quand on... Le gendarme qui a tué Naël, il sort millionnaire.
Ouais. 40 ans, est-ce que... On est à 40 ans, c'est passé très vite, on est d'accord. Très très vite. Les espoirs... Est-ce qu'ils étaient habités par vous, justement? Est-ce qu'il y avait de l'espoir il y a 40 ans? Aujourd'hui, et bien justement, c'est très intéressant, vous me dites tout à fait. Aujourd'hui, finalement, quel bilan dresse-t-on de ces 40 ans? Est-ce que l'espoir, cet espoir existe toujours? Quand on pense à la discrimination, quand on parle au racisme, quand on parle de la représentativité, quand on parle de la... Dans tous les milieux d'ailleurs, politique, médias, culture, etc. etc. Est-ce qu'on a avancé ou est-ce qu'on a régressé?
Alors moi je pense pas qu'on ait avancé. Il faut quand même savoir que la marche a eu lieu dans un contexte qui est celui de l'élection de la gauche au pouvoir après quand même plusieurs décennies de droite conservatrice. François Mitterrand arrive en 81, on est d'accord. Les gens comme moi, comme beaucoup d'entre vous, beaucoup des auditeurs issus de l'immigration étaient nommés jeunes de la deuxième génération, voire jeunes immigrés alors qu'ils étaient nés en France. Ils avaient le droit, Mitterrand leur donnera le droit de s'associer. On va assister dans les années 80, après cette décision, à une constellation d'initiatives culturelles, notamment portées par les filles, mais y compris par les garçons, mais les filles seront très dynamiques dans ce sens, des associations culturelles, d'éducation populaire, qui prennent en charge la culture, l'alphabétisation en lien avec le théâtre, etc. qui vont être une constellation d'initiatives locales qui vont dynamiser, contribuer à mailler les territoires. Et c'est vrai que c'est ces acteurs-là qui seront aussi très impliqués dans l'accueil et dans le collectif jeune qui accueillera la marche. Donc, c'est très dynamique. Nous sommes pas naïfs, mais portés par un espoir de changement. Et c'est vrai que les marcheurs des Minguettes l'incarneront. 100 000 personnes à Paris, c'est pas n'importe quoi. C'est une France de la solidarité, une France qui, quand on lui tend la main, une société civile qui est présente au rendez-vous. Et je ne voudrais pas être pessimiste. Ça me semble être plus complexe et plus compliqué
justement,
40 ans après.
Justement, vous me poussez à poser cette question la suivante. On est en pleine actualité justement en ce moment au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Vous savez, cette fameuse loi sur l'immigration qui se prépare. Vous avez un regard là-dessus? Vous avez une analyse sur cette loi de l'immigration?
Alors,
sur l'immigration,
je n'entrerai pas dans le détail, mais une société qui ne cesse de se protéger, qui refuse l'inclusion, qui considère que l'immigration est un danger à des fins essentiellement électoralistes, en utilisant les assemblées, l'Assemblée nationale comme tremplin pour légiférer, c'est très questionnant. C'est la France du repli, c'est la France du conservatisme et la France qui refuse de s'ouvrir. On a des guerres climatiques qui poussent des gens à venir. On a des niches d'emploi, on a des pans entiers de l'économie. Je ne suis pas économiste, mais j'observe des pans économiques du marché du travail occupés par des travailleurs sans papier et on ose dire qu'il faut se protéger. Et dans les quartiers populaires, alors pour en revenir à la jeunesse, qui est en danger? La jeunesse qu'on racisée, discriminée face à l'emploi, la jeunesse victime de contrôles policiers au quotidien, du délit de faciès. Faudrait quand même pas qu'on inverse les problèmes.
Faudrait peut-être qu'on inverse les problèmes. Ma dernière question, dans le cadre de cette interview des 40 ans de cette fameuse marche pour l'égalité et contre le racisme, Rachida Azoug, vous avez parlé, justement, vous avez fait référence au racisme. Je ne vous l'apprends pas, il y a une véritable poussée de racisme, de xénophobie au sein de l'Europe, de l'extrême droite qui occupe le terrain et qui se place tout doucement. Hein. Je fais référence à l'Italie, par exemple, l'Allemagne, plus récemment, chez nous en France, dans l'Hexagone, la Hongrie ou encore la Hollande. Franchement, est-ce qu'il n'y a pas une menace structurelle qui est en train de se passer pour les nouvelles générations, puisque vous parlez de nouvelles générations, ces nouvelles populations européennes d'origine immigrée, est-ce qu'il n'y a pas une menace qui est là, qui pèse?
Je pense que le contexte est préoccupant et que effectivement la menace plane. Lorsque la marche a été initiée, lorsque nous l'avions soutenue, les municipales de 83 avaient été tout de même nous avait posé question parce que c'est l'avènement quand même de l'extrême droite avec Dreux. Et il me semble dans la mémoire que le FN faisait 3%. On n'est pas loin des 30% 40 ans après. Bien sûr qu'il y a une menace. Après, moi, me semble-t-il, la citoyenneté, elle est aussi générée quand on ne va pas voter. Le rapport de force, il est nécessaire.
Le rapport de force est nécessaire. Qu'est-ce que vous avez envie de livrer comme message à nos auditeurs pour cette jeune génération qui vous écoute justement dans le cadre des 40 ans? Justement, est-ce qu'on peut garder encore cet espoir dans les années à venir? Est-ce que vous avez envie de livrer un message, ma chère Rachida Azoug?
Je ne sais pas si je pourrais livrer un message. Moi, je pense qu'il faut que le combat continue, oui. Et pas de justice, pas de paix, c'est une réalité. Pas de justice, pas de paix, il faut continuer le combat. Il faut continuer le combat. Contre les violences policières, contre le racisme systémique, et il faut soutenir les familles des victimes, ne pas faire à leur place, mais être à leur côté quand elles initient des actions pour faire plier pour que la justice soit rendue dans ce pays. Moi, je suis issue de l'immigration algérienne. Nos aïeux ont été en capacité, là où il y avait de la domination, à être au rendez-vous de l'histoire.
Merci Rachida Azoug, merci infiniment et bravo évidemment pour tout ce que vous faites et vous continuez de faire. Merci d'avoir été avec nous dans le cadre de ces 40 ans pour l'égalité et contre le racisme. Merci infiniment, à très bientôt sur l'antenne.
Vous.
Merci à vous également,
bonne
19h13.
Soirée,
bonne soirée, au revoir. On retrouve les débatteurs influenceurs et puis vous aussi au 01 53 48 3000. À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Merci Rachida Azoug, merci Halima Menhouj, merci Mohamed Kaki, merci Melil Alaoui. Merci de nous avoir fait revivre la marche 40 ans après. Une marche historique qui restera à jamais dans les mémoires. C'était de notre devoir à Beurre FM que de faire revivre ce moment de notre histoire commune. Surtout pour les jeunes, pour qu'ils sachent que leurs grands-parents, leurs parents, leurs grands frères et sœurs n'ont jamais plié les chines et qu'ils ont toujours vécu debout. Aujourd'hui, les luttes pour les droits continuent. À chaque génération de transmettre le flambeau de la dignité, de l'amour et de la paix. Merci et à bientôt. Et l'on se demande même s'ils changeront.